Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Voilà, et on parle chez vous aujourd'hui de la Hongrie et de l'exclusion, la suspension temporaire de Viktor Orban du groupe PPE au Parlement européen.
C'est ça, à 2 mois maintenant des élections européennes, la droite populaire européenne vient de suspendre donc temporairement le parti de Viktor Orban, la Fidesz, en opposition frontale depuis quelque temps avec les institutions européennes et certaines de ses figures, jusqu'ici sans entrave. Il vient donc d'être sanctionné par son parti hôte, mais sanction ou arrangement, c'est une des questions. Et on examine ça avec vous, Paul Gradvol, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être au téléphone. Vous êtes historien spécialiste de la Hongrie, maître de conférence à l'Université de Lorraine et auteur tout récemment de La Hongrie de Viktor Orban, souverainisme obsidional et renoncement à la démocratie. C'est dans Question internationale 97. Alors, ce qu'on voit pour commencer, c'est que les excuses qui ont été présentées par le Premier ministre hongrois Viktor Orban le 14 à son parti n'ont pas suffi. Cette fois, c'est donc au droit de vote et à la possibilité de présenter des candidats au Parti populaire européen que la Fidesz doit renoncer. Pour commencer, qu'est-ce que vous retenez? C'est la quasi-unanimité de ce vote, 190 voix contre 3, ou le fait qu'il s'agisse d'une suspension et pas d'une exclusion, comme certains l'avaient demandé?
Alors, les 3 voix sont celles de la Fidesz, donc on peut parler d'unanimité, ça c'est le premier point. Le deuxième, c'est que c'est une suspension sans durée précisé, donc c'est du temporaire qui peut s'inscrire dans le très long terme. La Fidesz ne veut pas dire qu'en septembre on sera fixé. Et la limite entre suspension et exclusion ici est tout à fait intéressante. C'est un beau débat sémantique, mais on peut dire que la Fidesz a obtenu de maintenir ses 2 options, à savoir essayer d'entrer dans une coalition avec des partis du type de celui de M. Salvini ou du type de celui de M. Kaczynski en Pologne. Et l'autre option, réintégrer le PPE. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que oui, contrairement à une exclusion où là, elle n'aurait pas eu le choix, cette possibilité est maintenue. Par contre, tout le discours de la Fidesz aujourd'hui est plombé par le fait qu'elle accepte de potentiellement remettre en question des choses qui ont été centrales pour elle.
Et alors précisément, on va parler...
Bien comprendre.
Oui.
Oui.
Non, parce que je voulais qu'on parle des modalités de cet accord qui va examiner certaines politiques effectivement centrales de la Fidesz. Mais juste, comment, de ce point de vue-là, vous interprétez l'attitude de Viktor Orban hier, qui avait l'air de triompher en un sens? Il disait, ce n'est pas possible de nous expulser ou de nous suspendre. Nous avons gagné 4 élections. C'est pourquoi nous avons décidé de nous suspendre unilatéralement, parce que tant il est vrai que la Fidesz, dans les formes, dit avoir accepté cette sanction.
Regardez, Viktor Orban est capable de dire à peu près tout et n'importe quoi. On en a encore une preuve. Avant la réunion, le texte officiel de tous les représentants du gouvernement hongrois et de la Fidesz était de dire « Si jamais il y a suspension, on part. Nous refusons cette humiliation. » Quelques heures plus tard, l'humiliation devient un succès de la Fidesz. Je rappelle quand même que parmi les choses exigées par le PPE, il y a le maintien de l'université Central European University, dite université Soros, à Budapest, alors que c'est un des boucs émissaires essentiels de toute la propagande d'Orban depuis des années. Donc il y a un recul manifeste, et les propos d'Orban sur sa victoire sont juste un écho de la façon dont il traite son opinion publique en interne.
Et concernant justement les modalités donc de cet accord, arrangement ou sanction, il y a donc un comité de 3 sages du Parti populaire européen avec certains anciens dirigeants dont Herman Van Rompuy ou Wolfgang Schlüssel, et puis certaines conditions donc qui ont été posées avec un rapport d'évaluation à l'automne, dont effectivement pas de déplacement de cette université d'Europe centrale de Soros, pas de campagne anti-UE non plus. Ça vous semble, un rapport qui sera crédible à la fin, étant donné qui y participe, et des conditions assez restrictives pour infléchir la politique de la Fidesz?
Alors, il est impossible de préjuger de la qualité du travail qui va être fait par ces trois personnes. Schlüssel était lui-même quelqu'un qui a été remis en cause par le PPE. Son parti a fait l'objet d'une procédure identique, il est revenu dans le PPE. Donc, a priori, on peut dire que c'est favorable à Orban. J'ai toutefois des doutes profonds pour une raison très simple. Jamais avant, dans le PPE, il y a eu des partis qui insultaient publiquement les autres membres du PPE sous prétexte qu'ils étaient à Bruxelles. Et personne n'a développé la théorie du complot comme Orban l'a fait. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait essentiel. La raison qui a fait que le PPE et notamment M. Juncker ont fini par ouvrir les yeux sur la Hongrie, c'est la propagande. C'est-à-dire que quand les Européens ont vu qu'il y avait des affiches en 4 sur 4 au moins avec la tête de M. Juncker accusé d'imposer des hordes de musulmans à la Hongrie, on a fini par réagir. Je crois que ce qu'on a du mal à percevoir, c'est la violence du contrôle idéologique exercé par le parti au pouvoir aujourd'hui en Hongrie. Ça atteint des degrés qui sont insoupçonnables. Un exemple, j'ai des collègues hongrois qui ont refusé de venir à des colloques à Paris parce qu'ils avaient l'impression que la ville était en permanence à feu et à sang, pas à cause des gilets jaunes, à cause du terrorisme.
Oui, effectivement, et avec un contrôle, disons, des médias et des médias publics en Hongrie. Et cette campagne d'affichage à laquelle vous faisiez référence, avec Jean-Claude Juncker un peu ricanant là, aux côtés de George Soros, sur fond de « L'Europe ouvre la porte aux migrants ». Du côté du PPE, tout simplement, et de sa stratégie, on a pu dire aussi que c'était une manière, suspension temporaire, d'empêcher aussi la FIDES ou de donner un avertissement pour éviter qu'il ne glisse, disons, vers d'autres partis extrême droite ou national souverainiste, PIS ou Salvini. Est-ce que c'est un bon calcul politique, disons, de suspendre Orban, de le garder un peu sous contrôle de cette manière, c'est un peu ça, avec cette réintégration sous condition?
Si on se place du point de vue du PPE, manifestement, Manfred Weber, son candidat pour remplacer M. Juncker, pense que c'est un bon calcul. Moi, j'ai des doutes extrêmement forts, puisque Orban est quelqu'un d'extrêmement volatile. C'est-à-dire qu'il fait des choses et son contraire, au dernier moment, peut changer d'avis. Donc, ce n'est pas un partenaire fiable. Et je pense que le PPE a juste essayé de limiter l'incendie, parce que faire la campagne électorale aujourd'hui pour les élections européennes avec Orban dans le parti, c'était impossible. Et faire la campagne avec Orban contre soi, c'était aussi extrêmement compliqué parce que au sein du PPE, et on le voit bien avec les Républicains en France, il y a une tendance à reprendre le discours défense de la chrétienté, un discours extrêmement identitaire sans aucun programme réel par ailleurs, pour la campagne électorale. Et donc le PPE n'est pas en mesure aujourd'hui d'affronter réellement idéologiquement Orban, et ils essayent leur calcul et de se dire que pour les élections, ils vont pouvoir continuer à éviter les questions les plus difficiles et on verra bien ce qui se passe aux élections.
Oui, à voir si le PPE peut un peu reconquérir aussi ce centre en s'étant séparé un peu de la FIDES face notamment à l'REM aussi. Et puis dernièrement pour Orban, là vous disiez qu'effectivement il y a eu des annonces de programmes européens ou de rapprochement avec le PIS. Il disait le 15 une spectaculaire renaissance de l'Europe centrale sur fond de défense de la chrétienté. Vraiment pas de programme ou une intention quand même, un rapprochement possible de certains de ces partis, encore une fois, souverainistes, nationales, catholiques ou souverainistes?
Alors, il y a un rapprochement possible, bien sûr, et d'ailleurs Orban y travaille très régulièrement, notamment en se rendant très souvent en Pologne, en finançant des partis en Slovénie, aussi un peu en Croatie, voire en Slovaquie, mais ça c'est des partis minoritaires hongrois. Donc il y a une tentative d'Orban d'aller dans le sens que vous indiquez. Rien ne dit qu'il y aura un succès. Mais du point de vue d'Orban, effectivement, il travaille à cette voie de sortie.
Oui, mais bah, écoutez, en tout cas, on retiendra un des acquis à voir d'ici la fin de l'année, mais c'est que l'Université d'Europe centrale a de bonnes chances, peut-être meilleures chances de rester en Hongrie. C'est à suivre et merci pour vos explications ce matin, Paul Gradvol, historien spécialiste de la Hongrie. On renverra à votre article, donc dans Questions internationales, la Hongrie de Viktor Orban, souverainisme obsidional et renoncement à la démocratie. Merci.